Transfert via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, bon début de semaine, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel avec dans 30 minutes notre débat du jour. Et vous êtes déjà nombreux sur les réseaux sociaux et au standard à souhaiter commenter la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 12 avril au Gabon. Élection cruciale puisqu'elle est censée marquer la fin de la transition. Initialement, rappelez-vous, ils étaient 4 à briguer la magistrature suprême, 4 à avoir été retenus. Finalement, après examen des recours par la Cour constitutionnelle, ils sont 8 sur la ligne de départ, parmi eux le président de la transition, Oligui Nguema, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinzé ou encore Zenaba Ninga Chaning, la seule femme dans la course. Parmi les recalés, Jean-Rémy Yama, vous l'avez certainement entendu samedi matin sur notre antenne, l'ancien leader syndicaliste a dénoncé une volonté manifeste d'écarter sa candidature. Pourquoi ont-ils peur de moi, s'est-il interrogé. Alors que vous inspire l'affiche du scrutin et qu'attendez-vous maintenant de la campagne électorale qui va démarrer dans quelques jours, samedi prochain pour être précis. On en parle ce matin, 33 9 693 693 70 et vos commentaires également sur WhatsApp et Facebook. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Pour commencer, des questions sur la Turquie. Après la première nuit en prison pour Ekrem İmamoğlu, bonjour Jean-Bernard.
Bonjour Juan.
À Douala, au Cameroun.
Oui, à Douala.
Bienvenue. Vos questions, Jean-Bernard.
Hier, le maire d'Istanbul, principal opposant du président Erdogan, a été incarcéré pour corruption. Pourquoi l'opposition accuse le président turc de faire un coup d'État ?
Ah. C'est vrai que depuis son arrestation, le pays est secoué. C'est en ce moment la plus grande vague de contestation depuis une dizaine d'années. Anne Andloer, bonjour.
Bonjour, bonjour Jean-Bernard.
Correspondante de RFI à Istanbul, tous les soirs depuis mercredi, des dizaines de milliers de personnes manifestent à Istanbul. Des rassemblements ont également lieu à travers tout le pays. C'est un véritable séisme politique qui se joue en ce moment en Turquie. Pourquoi l'opposition dénonce-t-elle un coup d'État ?
Alors l'opposition estime que l'arrestation et l'incarcération donc d'Ekrem İmamoğlu sont illégales et illégitimes parce que la justice n'a absolument aucune preuve contre lui, ni pour les charges de corruption, ni pour les charges d'aide au terrorisme puisqu'il est visé par deux enquêtes séparées. Pour les soutiens du maire, ça ne fait aucun doute, Ekrem İmamoğlu est victime d'une opération politique, d'un coup d'État civil ordonné par le président Erdogan lui-même qui aurait pris conscience qu'il ne pouvait pas rivaliser dans les urnes avec le désormais ex-maire d'Istanbul. Rappelons que l'an dernier, pour la première fois en 22 ans de pouvoir, le parti du président turc, l'AKP, avait été battu dans les urnes aux élections municipales par le CHP, le parti d'Ekrem İmamoğlu, un signal d'alarme pour Recep Tayyip Erdogan qui n'a aucunement l'intention de céder le pouvoir.
Autre question, Jean-Bernard, sur la présidentielle, je crois.
Sachant que la présidentielle a lieu en 2028, est-ce que cette arrestation peut entraver sa candidature à l'élection présidentielle.
Oui, Anne Andloer, c'est vrai que le timing interpelle. Hein. La justice a ordonné l'incarcération du maire d'Istanbul le jour même de la primaire de son parti pour l'investir candidat à la présidentielle de 2028.
Oui, et officiellement, Ekrem İmamoğlu, même incarcéré, reste le candidat de son parti, le CHP, pour cette présidentielle. Il a été plébiscité hier lors d'une primaire très suivie, puisque plus de 15 millions de Turcs y ont participé. Alors, en réalité, Ekrem İmamoğlu pourrait ne jamais être autorisé à se présenter, et ce n'est pas à cause des enquêtes qui lui valent actuellement son incarcération, ni des autres procès qui sont en cours contre lui, parce que le maire n'a reçu aucune condamnation définitive jusqu'ici. Ce qui lui barre la route, c'est l'annulation de son diplôme universitaire en début de semaine dernière, un diplôme qui est obligatoire en Turquie pour accéder à la tête de l'État. Ekrem İmamoğlu a fait appel de cette décision, mais en résumé pour l'instant, Ekrem İmamoğlu n'a pas le droit de se présenter à la présidentielle turque.
Ouais, l'opposition, donc, et notamment le CHP, le parti d'Ekrem İmamoğlu, serait donc privé de son meilleur espoir. A-t-elle des alternatives à ce jour ?
Alors, Ekrem Imamoglu dispose d'un joker, même s'il détesterait qu'on l'appelle ainsi, le maire d'Ankara, Mansour Yavaş, qui est également très populaire, mais son profil nationaliste n'est pas aussi rassembleur que celui d'Ekrem Imamoglu, notamment auprès des électeurs kurdes. Autrement dit, si l'opposition veut se relever en l'absence de candidats charismatiques, elle va devoir s'unir très au-delà des rangs du CHP et compter sur un vote sanction des électeurs qui, aujourd'hui, sont outrés par le sort réservé à Ekrem Imamoglu. Nul doute toutefois que le pouvoir lui réserve beaucoup d'autres épreuves d'ici au jour du vote. En attendant, Ekrem Imamoglu, lui, semble décidé à mener campagne depuis sa cellule de prison.
Et quelle peut être la stratégie du pouvoir ? Est-ce que Recep Tayyip Erdogan ne craint pas finalement un retour de bâton sous la forme d'une mobilisation encore plus forte de ses opposants, ou voire même d'un vote sanction dans 3 ans dans les urnes?
Alors, l'enchaînement des événements, en tout cas ces derniers jours, laisse penser que le pouvoir, comme toujours d'ailleurs, déroule son plan étape par étape. En écartant Ekrem Imamoglu 3 ans avant la date prévue pour la prochaine présidentielle, le président Erdogan fait le pari que les Turcs auront largement oublié la colère qui s'exprime aujourd'hui dans la rue. Le pouvoir fait aussi le pari que la contestation ne prendra pas davantage d'ampleur, hein, qu'après 10 ans de répression quand même, une large partie des opposants n'osent plus manifester, n'osent plus exprimer leur colère. Cette colère, en tout cas, elle était bien présente hier soir devant la mairie d'Istanbul. Reste à voir quelle forme elle prendra dans les prochains jours et semaines.
Jean-Bernard, a-t-on répondu à vos questions ?
Oh, c'est bien. Tout ce que je leur souhaite, c'est d'éviter la violence. Hein. Bon. Et d'avoir une bonne stratégie. Il faut avoir une très bonne stratégie.
Merci en tout cas de nous suivre à Douala au Cameroun et un grand merci à Anand Lower, correspondante de RFI à Istanbul. Des explications à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio ou sur notre chaîne, la chaîne WhatsApp RFI. Appel sur l'actualité. 9h17 à Paris. D'autres questions ? On va parler du Kenya. Bonjour Tim.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Soyez le bienvenu et merci de nous écouter à Kinshasa.
Merci beaucoup.
On vous écoute.
J'ai été étonné d'apprendre que le Kenya pourrait devenir une plaque tournante de la drogue, notamment en tant que producteur. Pourquoi ce pays est devenu un pays attractif pour les narcotrafiquants ? Est-ce que des mesures sont mises en place pour lutter contre ce phénomène ?
Ouais, bonne question que vous posez. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Kenya représente effectivement une plateforme mondiale du trafic de stupéfiants. Bonjour Gaëlle Lalex.
Bonjour.
Correspondante permanente de RFI à Nairobi, pourquoi le pays est-il devenu attractif pour les narcotrafiquants ?
Eh bien, d'abord et avant tout pour sa position géographique, Juan, le Kenya est à la croisée de l'Asie et de l'Amérique latine et représente une plateforme de transit idéale à destination du marché européen, Mombasa étant le plus grand port d'Afrique de l'Est. Et selon l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue, l'héroïne d'Asie a commencé à transiter par le Kenya dans les années 2010, quand la guerre en Syrie a notamment rendu la route terrestre vers l'Europe, en passant par la Turquie, plus compliquée. L'héroïne quitte l'Asie par bateau, souvent ce sont des dos, ces grands bateaux en bois de l'océan Indien pour atteindre les côtes kenyanes. Mais de plus en plus aussi, la cocaïne d'Amérique latine passe également par le Kenya. C'est par avion qu'elle voyage. Et puis le Kenya présente bien d'autres qualités pour les trafiquants de drogue. Des forces de police largement insuffisantes, un système judiciaire sous-financé et un très haut niveau de corruption.
Et ces relations avec l'Amérique latine semblent s'intensifier, Gaëlle, puisqu'un laboratoire de production de méthamphétamine a été démantelé au Kenya, laboratoire qui appartenait d'ailleurs à un cartel mexicain.
Oui, Juan, il a été trouvé en septembre dans la forêt des collines de Namanga, à la frontière avec la Tanzanie. Selon le rapport sur la stratégie internationale du contrôle des stupéfiants du département d'État américain, ce laboratoire appartenait à un cartel mexicain dénommé Jalisco Nouvelle Génération. Le département d'État estime que c'est la première opération mexicaine d'envergure confirmée au Kenya. Un mois plus tard, un membre du cartel sera arrêté à l'aéroport de Nairobi alors qu'il tentait de fuir pour Mexico.
Tim, à Kinshasa, nous demandait si des mesures été prise par le gouvernement pour lutter contre ce fléau.
Doté d'outils pour combattre le trafic de drogue, la police dispose de plusieurs services dédiés comme l'unité des enquêtes sensibles et l'unité spéciale d'investigation sur les stupéfiants, toutes deux formées par la DEA américaine. La loi sur les médicaments, les narcotiques et les substances psychotropes offre également aux juges toute une batterie de textes pour poursuivre les trafiquants. Mais comme le note le rapport du département d'État américain, malgré tout cela, le taux de condamnation reste très faible. Deux explications à cela, Juan. D'abord, les moyens accordés à la police et à la justice, largement insuffisant. La présidente de la Cour suprême avait alerté sur cette question. Selon elle, entre 2021 et 2022, plus de 520 000 affaires liées au trafic de drogue ont été jugées et plus d'un tiers d'entre elles attendaient dans les cartons depuis plus de 3 ans. Et puis la deuxième raison, c'est la corruption. Le département d'État américain pointe un manque de volonté politique pour lutter contre ce trafic. Selon le rapport, le trafic de drogue est l'un des principaux moteurs de la corruption au Kenya.
Tim, êtes-vous satisfait? A-t-on répondu à vos questions?
Oui, très satisfait, merci beaucoup.
Et merci à vous,
à votre correspondante.
Gaëlle Lalex, correspondante permanente de RFI au Kenya. Bonne journée à tous les deux, 9h20 à Paris. N'oubliez pas, dans une vingtaine de minutes maintenant, vos réactions après la publication définitive de la liste des candidats pour la présidentielle du 12 avril au Gabon. Cette liste vous semble-t-elle suffisamment inclusive? On vous attend au standard 33 9 693 693 70. Vous nous suivez à la radio et vous nous regardez sur la chaîne YouTube de RFI. Soyez les bienvenus. Je vous fais coucou d'ailleurs en ce moment. J'en profite d'ailleurs pour saluer Ahmed Om qui nous dit bonjour. Je vous suis depuis Lomé au Togo. Bonne émission. Merci Ahmed Om. Allez, on repasse au standard. Dolina, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu Dolina. Vous êtes au Cameroun, à Yaoundé.
Oui.
Voilà,
oui.
Vous avez des questions après le limogeage du chef des services du renseignement intérieur israélien.
Oui, les cours suprêmes israéliens ont suspendu les limogeages du chef du renseignement intérieur le temps d'examiner les recours de l'opposition. Pourquoi Benjamin Netanyahu ne dit plus avoir confiance dans le chef du Sinn Féin?
Oui, c'est vrai. Et que c'est l'argument avancé par le Premier ministre. On va essayer d'y voir plus clair avec Denis Charby. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Open University of Israel, près de Tel Aviv. Vous avez notamment publié aux éditions Kalman Levy « Israël, l'impossible état normal ». Expliquez-nous ce que reproche Benjamin Netanyahou à Ronen Bar, le désormais ex-chef du Shin Bet. Il dit « Je n'ai plus confiance en lui ». Que faut-il comprendre ?
Alors effectivement, il y a un chat noir qui est passé entre Benjamin Netanyahu et Ronen Bar. Certes, Ronen Bar n'avait pas été nommé par Benjamin Netanyahu, mais par son prédécesseur, Naftali Bennett. Je dirais qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est que, d'une manière générale, Netanyahu, qui veut éviter que l'accusation sur la responsabilité du massacre de masse du 7 octobre retombe sur lui, a tendance à considérer que tous ses subordonnés, que ce soit dans l'armée israélienne, le chef d'état-major, ou que ce soit dans les services de sécurité intérieure, eux doivent porter la responsabilité exclusive. Donc je dirais que structurellement, la position de Netanyahou vis-à-vis d'eux est teintée de grande méfiance. Et puis, le fait est que Ronen Bar a ouvert une enquête, comme la loi l'exige, hein, comme le métier l'exige, concernant des allégations de soutien du Qatar à une campagne de presse favorable aux intérêts du Qatar et qui aurait été diligentée par deux hommes très proches du cabinet du Premier ministre. Et c'est là que, je dirais, le torchon brûle, c'est-à-dire que Netanyahou, alors qu'en théorie, il aurait dû réagir en disant s'il y a des allégations de ce genre, il faut les vérifier parce qu'il n'est pas concevable qu'en temps de guerre, il y ait dans mon cabinet des personnes qui travaillent pour le Qatar, qui sont salariées peut-être même par le Qatar. Mais Netanyahou, qui tient à ses proches, eh bien, préfère s'en prendre à Ronen Bar. Et puis, il y a un autre différent plus grand encore, je dirais peut-être, c'est celui autour de la stratégie de l'État d'Israël face à la bande de Gaza et face au problème des otages. Ronen Bar estime que le devoir de l'État d'Israël est de porter la négociation à son terme et d'aboutir à leur libération en échange de prisonniers palestiniens. Ce n'est plus aujourd'hui la voie de Netanyahou, qui lui préfère continuer la guerre. Donc on voit bien qu'il y a à la fois un conflit d'intérêts, une différence de stratégie et des motifs qui ne respire pas, je dirais, l'intégrité quand on sait que le même Ronen Bar ouvre une enquête, a ouvert une enquête, ouais. et que, comme par hasard, son limogeage est intervenu quelques jours après cette annonce.
Et d'ailleurs, Ronen Barr, qui a réagi à son limogeage en publiant une très longue lettre, dit que les motivations de son licenciement sont basées sur l'intérêt personnel du Premier ministre. Denis Charby, je vous libère. Je sais que vous avez un agenda très chargé et que vous avez un rendez-vous. Donc, merci en tout cas d'avoir pris quelques instants ce matin pour répondre à Adelina. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Open University of Israel, près de Tel Aviv. 9h25 ici à Paris. On prend une dernière question ce matin. Bonjour Mamadou.
Bonjour.
Vous êtes à Lelouma, c'est dans le centre de la Guinée.
Oui, je vous appelle de Lelouma, dans le centre de la Guinée, sur les hauteurs du Fouta Jalon.
Eh bien, merci à vous de nous écouter sur place. Vous avez des questions concernant Donald Trump ?
Oui. La semaine dernière, Donald Trump a signé un décret pour fermer le département de l'éducation. Mais deux questions. La première, quelles sont les raisons de ce démantèlement ? La deuxième question, quel impact ce décret peut avoir sur les étudiants de l'étranger ?
Ouais, c'était une promesse de campagne de Donald Trump et c'était surtout l'un des grands rêves du Parti républicain depuis maintenant une quarantaine d'années, supprimer le département de l'éducation, le ministère de l'éducation. Bonjour Pierre Gervais.
Oui, bonjour.
Professeur en civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle, vous avez publié aux éditions Hachette l'histoire des États-Unis de 1860 à nos jours. Pour planter le décor en quelques mots, Pierre Gervais, expliquez-nous d'abord ce qu'est le département de l'éducation. Ce n'est pas vraiment le ministère de l'éducation comme on l'entend ici chez nous en France ou chez Mamadou en Guinée.
Non, pas du tout. C'est un département qui a été créé d'abord assez récemment, puisqu'il a été créé à la fin des années 70 par Jimmy Carter. Et en réalité, c'est un département qui a deux fonctions principales. C'est une fonction de gestion des prêts étudiants en particulier, puisque les prêts étudiants, comme vous savez, l'université américaine est extrêmement chère et il y a des prêts fédéraux garantis et il s'agit de sommes colossales. Hein. C'est 1500 milliards, hein, 1,5 trilliard. Et ça, c'est une des fonctions du département de l'éducation, mais la fonction de départ à la fin des années 70, avant l'explosion des frais, c'était surtout le contrôle des standards d'éducation pour le primaire et le secondaire et la lutte pour l'égalité, la gestion d'aide à des écoles pauvres, des choses comme ça.
Donc c'est assez marginal. Donc il y avait un volet quand même social, avant tout social, si je comprends bien.
C'est avant tout social, oui. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Républicains voulaient le supprimer, c'est que ça empiétait à leurs yeux, d'une part, parce qu'ils n'aiment pas du tout les politiques sociales, et d'autre part parce que ça empiétait sur le rôle des États, puisque l'éducation et des districts locaux, puisque l'éducation primaire et secondaire dépendent exclusivement, normalement, des districts locaux. Donc la création de cet outil fédéral d'influence avait beaucoup déplu aux Républicains. Donc ça, c'est la première raison, hein, mais il faut bien souligner que la suppression ne porte en réalité pour l'instant que sur la partie, d'ailleurs assez minime, de ces programmes de standards nationaux et d'aide locale, puisque les fonds des prêts sont toujours gérés et vont pour l'instant continuer à être gérés par le département de l'éducation, ce qu'il en reste, parce que personne n'est capable de le faire à part eux.
Ouais, pour supprimer ce département, je précise que Donald Trump a besoin du feu vert du Congrès, il faut une majorité qualifiée. Donc, bon, rien n'est encore fait. Quelles conséquences, quelles répercussions pour les étudiants étrangers en ce moment aux États-Unis ?
Aucune, tout simplement parce que le département d'éducation, comme je l'ai dit, ne s'occupe pas des étudiants en réalité, sauf sous l'angle des prêts, mais ce sont des prêts à direction des étudiants américains uniquement, et donc les étudiants étrangers ne sont pas du tout gérés par le département d'éducation, ils sont gérés par l'intermédiaire du US Citizenship and Immigration Service, qui est en fait une des branches de Homeland Security, je crois maintenant, et aussi c'est l'ensemble de ces organismes qui gèrent les visas étudiants, en fait, sont des organismes qui relèvent d'un département différent. Hein, c'est pas du tout le département de l'éducation. Donc, sur les étudiants étrangers, les attaques sont menées sur la question en particulier de la liberté d'expression par les organismes de contrôle de l'immigration, et ce ne sont pas les organismes du département de l'éducation, en fait.
D'accord, merci de ces précisions. Pierre Gervais, Mamadou, a-t-on répondu à vos questions ? Êtes-vous satisfait ?
Oui, oui, je suis satisfait. Merci.
Et bonne journée à vous. Merci de nous écouter donc à Lelouma, dans le centre de la Guinée. Pierre Gervais, professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle. Merci d'avoir pris quelques instants ce matin pour répondre à nos auditeurs. Il est 9h30 dans quelques secondes. Il sera 9h30 à Paris, la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient évidemment tout de suite après pour notre débat du jour et vos analyses après la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle au Gabon. Ils étaient 4, finalement, ils seront 8. Cette liste est-elle suffisamment inclusive ? On en parle, reste avec nous. Merci de votre fidélité.